Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment? T'habites où? Tu fais quoi dans la vie? Et moi, ça m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent réellement qui ils sont.
Je m'appelle Léna Gomez, je viens d'avoir 25 ans et actuellement je suis journaliste pour les ados, journaliste jeunesse.
Tu peux commencer par une case.
Ok. Maladroite. Je pense que j'ai très peur d'être maladroite quand je parle avec les gens parce que je sais que des fois je peux manquer de tact et tenir des propos assez directs et assez violents, mais parce que j'ai pas réussi à mettre les formes à un instant T avec une personne donnée et que je peux paraître un peu brute de décoffrage des fois. Et c'est assez contradictoire parce qu'en même temps j'essaye de... Enfin, quand je parle avec quelqu'un et que j'évoque un sujet, j'ai toujours peur de blesser la personne. À la fois, je prends 1000 précautions en essayant de prendre en compte ce que je pense de la personne, ce que je devine d'elle. Enfin, souvent, je devine mal en plus. Parce que le concept d'instinct et de... Enfin, c'est un truc que je crois pas du tout posséder. Enfin, je sais pas si ça existe, mais je me sens pas du tout touchée par la grâce à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est un peu étrange parce que je pense que... Je pense que je suis plutôt quelqu'un à qui les gens font confiance et s'ouvrent relativement facilement. Je dirais pas que je m'en targue non plus, mais je pense que je peux être une interlocutrice privilégiée pour des gens qui sont assez renfermés. Et peut-être que c'est parce que je sointe le malaise, la gêne et vraiment la non-confiance par tous les malheureux pores de ma peau que les gens se confient plus facilement à moi, bien que je puisse manquer de tact... Et paraître parfois un peu violente, je crois. Et en termes d'adresse, ma capacité à mouvoir mes 10 doigts, j'ai longtemps voulu avoir une pratique artistique, genre quand j'étais petite, toutes mes copines faisaient grave du scrapbooking, et moi j'ai jamais réussi à coller un sticker droit. Et sur mon cahier, quand j'étais petite, j'avais vraiment des points verts dans toutes les compétences, à part découper droit et coller proprement. Et j'aurais bien aimé être un peu plus précise, un peu plus à droite de vraiment de mes 10 doigts. Mes 10 mains, j'allais dire mes 10 doigts. Et c'est malheureusement pas le cas.
Après, ça peut toujours s'apprendre, mais est-ce que t'en aurais l'utilité?
Je sais pas si j'en aurais l'utilité. Je pense que j'ai vraiment pas la patience de me concentrer sur un ouvrage artisanal. J'aimerais vraiment bien apprendre à coudre, mais je pense que c'est peine perdue. Donc en fait, j'essaye même pas.
Bah, tu pourrais.
Je pourrais, mais probablement j'échouerais et ça me bousillerait.
T'aimes pas échouer?
J'aime pas faire quelque chose dont je suis pas absolument sûre que je vais être excellente.
Mais c'est impossible. Il faut pratiquer.
Bah oui, mais j'ai un peu.
Non, mais je comprends.
Je pense que c'est un manque de patience et, ouais. et une peur de pas réussir. Enfin, c'est évidemment ça. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Mais ça m'ouvre. Disons que ça m'ouvre pas beaucoup de portes dans la vie parce qu'en fait, j'essaye jamais. Parce que j'ai tellement envie de briller que s'il y a un risque que je brille pas, bah je fais rien.
Ok.
Et je pense que ça joue dans le fait que je développe pas beaucoup de compétences autres que celles que je maîtrise de manière plutôt innée. Je suis pas curieuse, mais je mets pas ma curiosité à profit parce que j'ai trop peur. Et je pense que ça me frustre pas mal. Peut-être qu'un jour je changerai, mais je crois que c'est pas prévu à court et moyen terme. Genre pas pour l'année à venir. Je m'en sens pas encore capable, je crois.
C'est quoi les compétences que t'estimes innées?
Je pense que tout ce qui touche à la production d'écrit, ça, c'est un truc dans lequel je suis assez bonne.
C'est parce que t'as cette compétence-là que t'as voulu faire journaliste ou c'était un chemin logique
J'ai toujours voulu faire un métier où l'écriture était une part intégrante du job. Je pense que ça aurait pu être plein de choses. Ça aurait pu être avocate. À un moment donné, je me suis dit ça parce qu'écrire des plaidoiries, je pense que j'aurais été bonne aussi. Ouais, je pense que ça a été... Mais pas que... Après, je suis journaliste maintenant, mais je pense vraiment pas le rester très longtemps. Et je pense que c'est en partie parce que on a tendance à penser que c'est un métier très littéraire et où l'écriture tient une très grande place. Mais c'est pas vraiment de l'écriture créative.
C'est plus de la recherche, non?
C'est de la recherche d'informations et c'est une mise en forme, une manière de traiter l'information pour la rendre disponible à destination du receveur de l'information, enfin du public, enfin des gens, des citoyens. Mais ça se fait dans un cadre très normé où... Après, peut-être que ce que j'aime bien dans l'écriture, c'est un peu de me regarder écrire et de me dire « Ah, t'écris bien. » Enfin, c'est de donner de l'émotion. J'imagine que ce soit une... Enfin, que je réussisse ou pas à le faire. Encore plus, dans mon métier de journaliste jeunesse, on utilise des mots simples, on fait pas des phrases compliquées. Ça me frustre pas, mais ça participe pas à ce que l'écriture soit quelque chose que je... qui m'apporte énormément de plaisir dans mon métier. Je dirais pas ça.
Okay.
Après, du point de vue intellectuel, je trouve ça hyper intéressant de travailler son écriture précisément à destination des jeunes. Ça reste un exercice d'écriture, mais vraiment pas d'écriture créative et vraiment pas d'écriture poétique, en tout cas.
Okay.
Courageux. Je pense que je suis vraiment pas courageuse. J'ai tendance à me considérer comme une énorme, grosse lâche. Mais ça revient un petit peu... Enfin, ça rebondit sur ce que
c'est
je disais.
Ce que j'allais dire, ouais.
De ma peur... de me lancer dans des projets dont je suis pas sûre de pouvoir les maîtriser à 100%. Je pense que je suis courageuse dans le sens où je dirais pas que je suis résiliente, mais je pense que j'ai une capacité, ou plutôt c'est plutôt un état d'être au monde très cynique. Enfin, je crois que je suis extrêmement enfin, en fait, cynique, c'est un peu le mot, personne sait tout à fait ce qu'il veut dire, on met tous plein de trucs derrière, on adore l'employer. J'ai presque envie de vérifier la définition du mot cynique.
Tu peux. Hein.
Alors, cynique, on est sur le Robert, qui exprime sans ménagement des sentiments, des opinions contraires à la morale reçue, ou alors qui appartient à l'école philosophique de l'Antiquité qui cherchait le retour à la nature en méprisant les conventions sociales, l'opinion publique et la morale commune.
Tu lis effectivement beaucoup plus vite que moi.
Je crois que je lis très vite.
Oui.
Un être cynique et immoral. Peut-être que je suis un être cynique et immoral. Je pense que... Derrière ce mot, je mets plus une attitude qui consisterait à avoir l'air, enfin, disons, mettre en scène avec une forme d'humour très pince sans rire la tragédie de ma propre existence. Voilà, j'ai l'air dévastée en disant ça et je pense que c'est à peu près l'attitude que j'entretiens. Enfin, le monde est tellement atroce et la vie est tellement pourrie que en parler. Avec même pas un sourire, mais juste une sorte de... Avec des yeux vides et l'air de pas y toucher, tu vois. Je sais pas. C'est une forme de résilience qui s'exprime par... Je sais même pas si c'est de l'humour, mais c'est plus une
mise
en forme.
Moi, je vois ça comme ça, mais après, ouais. Ça dépend de comment toi, tu l'emploies.
Je sais pas si je suis quelqu'un de très drôle.
Bon, je trouve que si. Des fois, tu lâches des trucs hilarants.
Je suis hyper heureuse.
J'ai pas d'exemple.
C'est le meilleur compliment que puisse me faire. J'ai passé beaucoup de temps à croire que j'étais une personne pas drôle.
Ah non.
Et même, je crois que c'est en grandissant que je découvre ma capacité à être drôle. Mais je pense qu'elle s'exprime vraiment à travers ce que j'appelle le cynisme et qui porte probablement un nom plus technique et plus précis que celui-là. En tout cas, c'est le nom que je donne à la petite comédie qui est ma vie, quoi, tu vois. Sinon, est-ce que je suis courageuse? En fait, je saurais même pas dire si j'ai peur de beaucoup de choses ou pas. C'est pas une question que je me pose si souvent. Je me considère pas comme quelqu'un de trouillard. Enfin, je crois pas. Est-ce que j'ai peur de beaucoup de choses? Si je te demande si t'as peur de beaucoup de choses, ça veut dire quoi pour toi comme question?
J'allais dire, j'ai pas spécialement peur de la mort. C'est la première peur qui me vient en tête. En même temps, j'ai pas trop envie que ça arrive non plus, mais c'est pas un truc qui me tracasse au quotidien, quoi, en tout cas.
Et la mort de tes proches? Parce que bon, notre propre mort, enfin, vraiment... Je suis pas sûre qu'on soit mieux là que dans un sac de ciment, toi et moi, mais pour les darons, tu vois.
Non, c'est vrai, pour l'entourage, ça... c'est vrai que souvent, je m'inquiète par rapport à ça.
Ouais, moi je m'inquiète beaucoup. Enfin, ouais. Quand un proche, quand mon père, par exemple, me répond pas à des textos, ouais. Je suis persuadée qu'il est mort.
Ouais, bah pareil.
Je suis persuadée qu'il est mort. Et le nombre de fois où vraiment un ami me répondait pas, ou une amie me répondait pas, enfin ouais. Mon père ou ma mère, ou
ça m'arrive souvent aussi.
Vraiment, je vais sur Twitter et sur Internet et je tape tous les mots clés. Ça va vraiment de la couleur de cheveux à la marque de ses nouvelles baskets, ouais. Avec les mots mort. En imaginant sa localisation, genre je tape des noms d'autoroute un peu au hasard où il pouvait peut-être se trouver.
je sais pas si c'est tout à fait normal de faire autant de recherche, mais effectivement, quand on met un petit peu de temps à me répondre, je me dis, Lucas, mon copain par exemple, qui s'il met une heure sans ouvrir mon message. Après, je parle beaucoup, donc c'est pas grave s'il me répond pas. Mais je me dis, là, il est parti du taf. Ça se trouve, il y a eu un accident quelque part. Il a traversé au mauvais moment, au mauvais endroit.
C'est terrible.
Super chanson de Calogero.
Vraiment.
Non, mais ouais, c'est surtout avec Lucas, du coup, parce que j'habite avec lui et que je l'aime très fort. Mais ça m'arrive aussi avec d'autres gens. Mais ça arrive moins, puisque je leur parle moins qu'à Lucas.
Ouais, c'est vrai. Après, moi, je crois que j'ai quand même la chance de... Enfin, j'ai pas... Je crois quand même qu'il y a des gens qui ont des amis qui ont tellement des comportements à risque et qui sont tellement barrés qu'il y a vraiment une chance sur trois, quand on ne sait pas où il est, que la localisation soit vraiment le fin fond du fossé. Ouais. Moi, ça va, je crois que j'ai pas peur. Enfin, j'ai pas vraiment de raison d'avoir peur. Et heureusement, je sais pas si je pourrais survivre à ça. Sensible. Je pense que je pleure moins qu'avant, mais précisément parce que ma nouvelle forme de résistance et de protection contre la violence, finalement, de cette sombre existence, c'est un peu de me mettre à l'écart et d'essayer d'en rigoler.
C'est une façon d'éviter le problème.
C'est une façon d'éviter... Ouais, non, mais encore une fois, c'est vraiment plus une manière de mettre en forme le truc pour éviter de déprimer tous les gens autour de moi et moi-même. Enfin, je crois que j'essaye de me créer des biais mentaux, alors qu'en vrai, ça me dévaste, mais...
Je pense que essayer de jouer un tour à ton cerveau fait que ça doit aider en vrai.
Oui, et en vrai, c'est peut-être aussi une posture confrontante d'une certaine manière. Enfin,
oui, j'ai dit que c'était une façon d'éviter le problème, mais c'est surtout une façon de l'affronter de manière un peu différente que.
Ouais. Ouais. Je dérive complètement des objectifs sensibles, mais toute cette histoire de posture, depuis quelques années, je crois que je suis quelqu'un d'assez timide. J'arrive pas à comprendre les mots extraverti, introverti, timide.
C'est un peu extrême comme mot, effectivement. Mais...
Bah, tu vois, moi, je saurais pas qualifier où je suis. Je sais juste qu'en fait, moi, je suis mal à l'aise. Oui. C'est ça, mon état de vie, mon être au monde, c'est être mal à l'aise. Et en fait, je suis gênée, gênante, avec vraiment un petit tiré du haut entre les deux. Et c'est assez insupportable. Et avant, j'essayais vraiment de le cacher.
Est-ce que tu le prends mal si c'est le titre de l'épisode?
Gênée, gênante. Ah non, mais vas-y.
Je suis désolée.
Ah non, mais grand bien nous en fasse. Enfin, effectivement, gênée, gênante, c'est moi. C'est moi, c'est terrible que ce soit moi, mais c'est bel et bien moi.
Et moi je te perçois pas comme gênante, en tout cas. Après, j'ai conscience que parfois tu es gênée, mais.
Ouais,
moi
mais...
aussi, donc oui. Je vais pas te jeter la pierre, franchement.
Certes. Non, mais gênée, gênante, dans le sens où, comme je suis gênée.
Ça en devient gênant.
Ça en devient gênant, et comme je le dis, en fait, c'est maintenant je le dis que je suis gênée. De toute façon, ça se voit sur ma gueule, et j'ai passé tellement d'années à essayer d'être normale en société et de faire des sourires et de claquer des bises et de faire du small talk, alors que vraiment, je ne sais pas le faire.
Non plus.
Et j'ai fini par embrasser un peu cette posture de malaise profond, absolu.
C'est qui tu es, c'est pas grave.
Ouais, mais du coup, en fait, c'est devenu une identité. C'est devenu une manière de me présenter aux gens.
Ça fait que tu l'es peut-être un peu moins à force.
Ça fait que je le suis peut-être. Un peu moins. Je sais pas si ça change vraiment mon degré de gêne, mais donner aux gens la possibilité de me voir comme ça parce que c'est comme ça que je suis, je trouve que ça abaisse, enfin ça abat vraiment une barrière.
Après, j'évite que les gens se disent ah elle est gênante.
Ouais, en fait, je subis pas le truc.
Bah, c'est pas grave.
Enfin, je le subis quand même, mais je mets en place une stratégie pour le coup de confrontation où en fait. Le rapport, il est égalitaire. Je suis gênée, je te dis que je suis gênée, tu vois que je suis gênée, tu sais que je suis gênée, bah du coup, on fait quoi? On boit un coup, tu vois. Ça désacralise, je pense, un peu le truc, et c'est une posture que j'adopte. Enfin, plutôt, elle s'est imposée à moi comme un truc qui était sûrement plus positif et moins douloureux dans ma manière de relationner, surtout avec des gens que je connais pas. Et en fait, c'est assez utile.
Oui, ça me fait penser à un épisode de Anything Goes de Emma Chamberlain, un podcast en anglais. Dans un de ses épisodes, elle parle de trop en dévoiler sur soi, oversharing. Donc, quand tu dis trop d'infos sur toi et tu t'en rends compte, et en fait, elle partage trop sur elle. Elle a exactement le même problème, donc je suis en mode go sister. Comme toi, elle va dire, ok, là j'en ai trop dit, n'est-ce pas? Enfin bon, en anglais ça marche mieux, mais... Et du coup, le fait de rire de ça, effectivement, de conscientiser le truc en mode, ah bah... J'en ai trop dit, donc dans une certaine manière, c'était peut-être un peu gênant. Le fait de dire « Ah, tu peux rapidement passer à autre chose et accepter le truc », donc c'est comme tu viens de dire, en fait.
C'est une stratégie qui fonctionne assez bien.
Moi, je me rends compte que j'en ai trop partagé sur moi quand la soirée est terminée. Genre, des fois, je me rends compte que je parle trop parce que j'ai bu et parce que je sais que je suis insupportable et j'arrête pas. Je suis en mode, mais c'est pas grave, moi, j'ai pas de tabou, moi, je vous dis tout.
Ouais.
Et je le pense un petit peu, mais des fois, tais-toi, Sandra, en fait. Des fois, il y a des trucs que j'ai dit, mais j'aurais jamais aimé que ça sorte de mon cerveau.
Ouais, c'est horrible.
Sorti, quoi.
C'est horrible.
Mais à chaque soirée, quasiment.
Ah ouais, non, mais tout pareil.
Même sans boire beaucoup, hein. Juste au bout d'un moment, je suis dans un truc d'euphorie avec mes potes et. Bah, je vous dis tout, les gars. On est frères. Bah oui, mais garde des trucs pour toi, peut-être.
Ah, c'est vrai que c'est assez horrible. Le lendemain matin. Enfin, moi, je suis une grande prêtresse de. Genre, j'efface les messages.
Ah ouais, non, mais moi, alors c'est dans c'est... la vraie vie. Du coup, je peux pas effacer les.
Oui, non, mais
c'est
oui.
C'est une
oui,
discussion.
Oui, enfin, oui, j'aimerais que les gens effacent de leur cerveau toutes les erreurs que je leur ai dites. Mais en plus, il y a des trucs qui sont vraiment cringe. Et surtout, des fois, à posteriori, je me rends compte que j'ai dit des choses avec une intention qui n'était pas la bonne.
Ouais.
C'est-à-dire que je peux raconter des drames de ma propre existence en ayant l'air dévastée, alors qu'en vrai, c'est des trucs qui me dévastent plus trop depuis un certain moment. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir. En fait, je sais pas si sur le coup, je me suis laissée rattraper par une réelle émotion que j'ai partagée à ce moment-là, alors que je pensais avoir terminé avec ce qui me faisait de la peine ou ce qui me faisait souffrir dans les choses que je raconte. Des fois, je me dis, t'as voulu te rendre intéressante, t'as mis une émotion qui est pas la tienne au réveil, t'as menti.
C'est une émotion que t'as eue, donc c'est pas non plus...
Oui, mais quand il y a un vrai gap entre... Pardon, je te coupe.
Non, c'est moi qui t'ai coupé, donc vas-y.
Mais quand il y a un vrai gap entre des choses que t'as dites la veille avec une intention particulière et que la sensation que t'as au réveil ne correspond pas avec l'émotion que t'as mis dans ce que t'as dit la veille, je sais pas si on se suit, et bah des fois j'ai l'impression que j'ai menti aux gens et j'ai honte et j'ai l'impression de leur avoir volé du temps et volé de l'attention c'est horrible comme sensation.
Après, si t'as partagé une émotion que tu n'as plus en ce moment, ça veut pas dire que, effectivement, comme t'as dit, à ce moment-là, peut-être que tu l'avais. Et si le fait de l'évoquer à ce moment-là, c'est que même si tu penses avoir être passé au-dessus, au fond de toi, ça te touche quand même encore.
Bah ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est un problème avec lequel j'ai l'impression de... Et c'est que souvent, en fait, je fais pas confiance à mon propre jugement. Et je fais pas confiance à ma... Mais à la fois à mon propre jugement et à la fois à ma propre perception de la réalité. Et des fois, je sais pas si ce que je pense, c'est vrai ou faux. Si ce que je vois, c'est... Enfin, je...
Oui. Et parce pourtant, que ton avis diverge tout seul. Bah,
ouais.
Pareil, donc je comprends.
Et ça me terrorise parce que je vois bien que je suis pas dans des états de dissociation. Il y a pas de barrière amnésique ou de quelques barrières. Enfin, je m'y connais pas très bien en sciences cognitives et tout, mais... Mais j'ai de plus en plus... du mal à faire confiance à ma manière de percevoir les choses et avoir l'impression de me perdre dans les ordres de réalité. Et c'est... Enfin, t'as l'impression de t'échapper à toi-même. Ouais. Et je me dis, mais putain, mais je grandis, je suis censée au contraire m'ancrer de plus en plus dans ce qui est le vrai, ce qui est le bien, ce qui est le juste. Et en fait, j'ai l'impression de m'y perdre en permanence. Et c'est hyper pas rassurant pour les longues années de vie qui m'attendent.
Après, t'es encore jeune.
Ouais.
J'ai le même problème que toi, j'ai le même âge que toi, mais je me dis... ça va pas être nécessairement ça tout le reste de ta vie parce que tu vas te construire par x, y moyens. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, et selon toi à ce moment-là, peu importe le sujet, ça dépend de tes expériences, ça dépend de plein de trucs, donc je pense que c'est pas un truc qui va rester toute ta vie.
J'espère.
En tout cas, j'espère pas,
ouais. Ce qui me fait me rendre compte que j'ai absolument pas répondu à la question, le mot-clé étant sensible.
Ah oui.
Des fois j'ai l'impression que je le suis de moins en moins. Enfin, je me suis toujours considéré, j'ai toujours eu l'impression de vivre une expérience ultra émotionnelle de la vie, d'être touchée par tout et tout. Et je le suis toujours, mais je crois que ça se manifeste moins de manière physique en tout cas. Peut-être parce que, en fait, juste, peut-être que j'ai plus de larmes, peut-être que c'est ça la vérité, je sais pas. C'est un peu bizarre, mais je sais les choses qui me déclenchent. Je parle vraiment de mon expérience artistique de la science, enfin plutôt des émotions telles qu'elles me sont données par la sphère artistique, que ce soit le cinéma, la littérature, la poésie, la musique, dans peut-être une moindre mesure, je sais pas. J'ai l'impression que je me suis forgée une sorte de petite malle, genre une petite valisette, tu vois, avec plein de choses qui me touchent, et que quand j'ai besoin d'aller craquer un gros coup, j'ouvre un peu mon petit tiroir à malice et je vais en chercher tel poème de tel poète, et genre vraiment, tu sais, je lâche tout, je lave, en fait. C'est un peu bizarre.
Non.
Non, mais du coup, c'est une sorte de mise en scène de l'émotion, pour un peu se vider. Et alors, en plus, je me dis pas, putain, là, il faut que j'aille chialer, je vais aller prendre tel recueil. Mais pourtant, des fois, j'y viens, tu vois. J'ai l'impression qu'on est au Moyen-Âge et qu'il y a y a des pleureuses, et tu sais, qu'il y a une sorte de... Je sais pas. Je saurais pas te dire si je suis plus sensible ou pas que la moyenne. Je pense que je suis sensible à la poésie. C'est déjà pas mal. Ambitieux. Pas du tout. Pas du tout. J'ai un peu le problème des personnes dont on dit qu'ils ou elles ont fait des grandes études et qui se retrouvent après en train de réaliser qu'en fait, le travail, c'est pas du tout une valeur qui les anime particulièrement. Je place pas très haut la valeur travail dans mon existence. Je compte pas me saigner pour avoir le chômage. Je compte pas me saigner pour faire tourner l'économie. Enfin, en fait, je crois que mon petit côté anticapitaliste m'empêche d'être ambitieuse au sens où on demande aux jeunes diplômés de l'être. Je suis surdiplômée pour à peu près tous les métiers que je vais bien vouloir, enfin pour lesquels je vais bien vouloir postuler, qui pourraient m'intéresser dans ma vie. Et ça m'a vraiment rien apporté, quoi. À part me répéter plein de fois que j'étais l'élite de la nation et me faire croire à moi-même que j'étais dotée d'une intelligence supérieure pour en fait avoir juste encore plus peur de l'échec et encore plus peur d'aller dans des sentiers qui n'étaient pas censés m'être destinés. Enfin, à la fois, je suis très reconnaissante parce que j'ai fait des études qui m'ont beaucoup intéressée. Avant le journalisme, j'ai étudié l'histoire de l'art et la philosophie. Et c'était vraiment hyper nourrissant, hyper nourricier. C'était vraiment super, mais en fait, non. Enfin, je suis reconnaissante de l'avoir fait et que sa mère, la France, me donnait l'opportunité de le faire. Mais à part la peur de l'échec et la peur de décevoir, je crois que j'en ai pas tiré grand-chose. D'autant plus que, étant donné que j'oublie absolument toutes les années qui passent les unes après les autres, je n'ai aucun souvenir de ces études. Donc ça m'a même pas rempli mon pauvre crâne. C'est un échec. Donc non, je pense pas être ambitieuse. Mais j'aimerais bien l'être parce que là, je suis un peu dans une période de ma vie où je remets tout mon parcours professionnel en grande question. Et ça laisse, mine de rien, un pan de vie complètement vide. Quand on peut pas se raccrocher au travail, enfin, ça enlève quand même un grand pan de toutes les choses auxquelles on peut se raccrocher. Et donc, quand on a besoin de se raccrocher à quelque chose, pas avoir de perspective assez enthousiasmante pour s'y jeter à corps perdu dans la sphère professionnelle, ça laisse vraiment genre, beaucoup de mou sur la corde. Ça rapproche la perspective de se la passer au cou, si je peux filer la métaphore. Pas très ambitieuse par ici. Patiente, pas du tout. En fait, j'ai l'impression que je me définis en creux, enfin en négatif, par rapport à tous les adjectifs sur lesquels je suis tombée. Je ne suis pas ambitieuse, pas courageuse, et pas patiente, pas du tout patiente. Mais en fait, les adjectifs sur lesquels je tombe se répondent les uns un peu avec les autres.
Tout est lié.
Tout est lié. Cette grande boule d'algues qu'est la vie. Non, je suis tout sauf patiente. Je manque de patience, mais ça, pour le coup, je manque de patience avec tout, en fait. Avec les projets que j'entreprends, je manque de patience avec les gens, je pense. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je peux prendre le temps de rentrer dans une situation de compréhension avec quelqu'un si j'ai envie de le faire. Enfin, c'est pas du tout ça. Mais en fait, je pense que je suis assez dure avec les autres, mais parce que je le suis. Enfin, je crois que je suis juste quelqu'un d'extrêmement exigeant, et envers les autres et envers moi-même. Et du coup, je trouve que j'ai du mal à mettre en place une forme de bienveillance qui passerait par une patience à toute épreuve. Non, mais c'est vrai que des fois, quand je rencontre des gens, mais si, en fait, je suis tellement dure avec les autres. Et je pense que quand je dis que je suis maladroite et que je dis que je suis assez violente, ça peut vraiment se manifester dans des situations où on me fait rencontrer quelqu'un. Et comme je suis une horrible personne, je me rends compte au bout de 5 minutes de conversation que c'est pas ce soir que je vais trouver des liens avec la personne en question. Et comme je suis un peu butée, des fois, je me dis, vraiment, je pense que vraiment, en fait, on n'a rien à se dire, on va pas. Et du coup, je prends pas la peine de creuser plus parce que ça me demande un effort de sociabilisation, enfin, vraiment que j'ai pas envie de donner à ce moment-là. Et je pense pas que la personne le ressente, tu sais, je m'éclipse. Mais il y a des gens qui sont tellement curieux et tellement avides de découvrir les autres, qui prennent un temps et une douceur infinie à creuser. Et ce genre de personne, c'est le cas de ma copine Juliette Bourgaud, que tu connais. Et elle a cet intérêt pur, cette passe, enfin je trouve en tout cas. Mais Émile, il a ça aussi. Après, les deux, je les connais bien, je pense que vous êtes aussi beaucoup dans ce cas-là, mais je m'en rends pas forcément compte. C'est une qualité merveilleuse que je ne possède pas, mais je la laisse à mes amis. Ils sont capables de mettre en lumière des gens, alors que les deux, et Juliette et Émile, c'est des gens qui prennent beaucoup de place, qui sont, mais pas parce qu'ils sont solaires, mais ils ont aussi cette intelligence de se mettre en retrait pour faire briller les autres, et particulièrement les gens qui sont pas forcément toujours à l'aise. Et je trouve ça lumineux.
Le pire dans tout ça, c'est que Émile, je parle pour lui, mais j'ai l'impression qu'il a pas l'impression d'être sociable. alors qu'il connaît la terre entière,
ouais.
Mais et qu'il arrive à garder ses contacts en plus, tu vois.
Ouais.
Enfin, il a des potes du collège ou du lycée,
ouais,
qui parlent hebdomadairement, quoi, facilement. Donc je
mais
pense
je comprends
qu'il
pas
se...
comment il fait.
Bah, je sais pas. En
plus, je sais pas. Enfin,
moi je propose un café à quelqu'un, on me dit non je peux pas. Bah j'en propose pas pendant 6 mois, alors que.
Mais oui. Moi je propose un café à quelqu'un et on me dit oui et j'y vais pas parce que j'oublie. Tu vois. C'est le degré 2 du... Ouais. Non, mais Emile a une capacité à entretenir, mais parce que... J'allais dire, je sais pas ce qu'il y trouve, mais en fait, ça a l'air naturel, quoi.
Je pense surtout qu'il a peur... Putain, mais c'est horrible parce qu'on parle d'Emile alors qu'il est pas là, mais...
Désolé,
je pense que c'est un truc de... Soit il a peur de se retrouver tout seul, alors que même si lui ne fait pas d'effort pour garder contact, les autres font effort pour garder contact avec lui parce qu'il est génial.
Ouais.
Donc il n'y a pas de raison de... Mais,
ouais, mais c'est trop facile aussi quand t'es génial. Fin...
Bah ouais, trop relou.
Bah non, mais tant mieux pour lui, mais
tu sais. Oui,
non, mais. C'est le premier degré, vraiment.
Bah, je préfère préciser.
Non, mais c'est vraiment un cheat code. Genre, tu sais, nous, on n'est pas comme ça.
Ouais, non.
Et en fait, des fois, ça me rend un peu jalouse. Si un adjectif jalouse, vraiment, la réponse, c'est oui.
Il y a pas, je crois, l'adjectif jaloux. Ça aurait pu être intéressant, effectivement.
Bah, je crois que je suis la personne la plus jalouse que je connaisse. C'est horrible. En fait, je ne donne vraiment aucune qualité. Je n'en ai pas. Je m'en rends compte
maintenant.
Mais si,
t'en as. T'es drôle, déjà, ça, on le sait.
Ouais, mais ça, je crois que ça suffit pas pour être sympa, tu vois.
Oh, des fois, t'es raciste?
Non, je crois
bah,
pas.
T'es sympa, alors.
Ok.
T'es pas raciste, t'es drôle. Bah voilà.
Putain, mais hier, j'ai raconté ça à Emile hier soir. Hier, j'ai passé un entretien d'embauche pour un travail de bibliothécaire dans une médiathèque. Et j'ai passé la soirée à me répéter en boucle tout ce que j'avais dit aux 3 recruteurs et recruteuses. Et à un moment donné, j'envoie un message à Emile pour lui dire « Mais attends, je sais plus si j'ai dit des trucs racistes ou pas. » Et alors, évidemment que non. Enfin, genre, par pitié, non. Et il y a même pas de discussion dans lesquelles
c'est possible.
Non. J'ai évidemment des biais racistes et j'exclus absolument pas de pouvoir tenir des propos racistes, mais c'est pas ça la question. Genre, juste dans cet entretien, ce n'est pas. Enfin, je suis sûre que non. Et j'ai eu une sorte, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je fais pas confiance à mon jugement et que des fois, je questionne ma vraie perception de la réalité. C'est que j'ai eu une demi-heure de bug où je me suis dit, mais imagine. Et tu sais, j'ai repris chaque mot de l'entretien en me disant, merde, je suis sûre que j'ai tenu des propos racistes. Mais c'est. Qui pense comme ça? C'est terrorisant. Mais je crois que c'est ça qui m'empêche d'avancer dans la vie, c'est que je passe tellement de temps à questionner tout ce qui est en arrière de l'axe de temps présent que, genre, il y a. C'est le chemin, il est. Ouais. C'est même pas qu'il est pavé de mauvaises intentions, c'est juste que. Enfin, je sais pas. C'est compliqué.
Hier, au taf, en gros, il y a une porte, il y a un angle. Il y a une porte où c'est les toilettes, ouais, et une porte où c'est une autre agence. C'est un endroit où il y a plein d'agences. Moi, je vais en direction des toilettes. Et il y a une dame qui est en train de rentrer dans l'agence et qui me tient la porte de l'agence. Et je dis... c'est pas du tout intéressant ce que je veux dire.
Non, vas-y.
Et je dis... je vais là en rentrant les toilettes. Merci quand même. Cet échange, juste cet échange où elle a ri en disant « Ah, je t'ai tenu la porte pour rien. » Enfin, dans sa tête, elle s'est dit ça. J'imagine, j'en sais rien.
Ouais.
Tu vois, mon problème
ouais.
est là.
Ouais, bien sûr.
Et vraiment, pendant 10 minutes, j'étais en train de me dire, de me refaire l'échange alors que
ah ouais, c'est
elle avait oublié en 2 secondes,
bien sûr,
partie faire son truc, quoi.
Mais oui.
Pour te dire à quel point ça me.
On a des cerveaux malades.
Bah non, c'est ça. Pour un truc aussi con que ça, quoi.
Ouais.
Encore un entretien, je veux bien parce que c'est stressant, etc. Il y a des enjeux et tout. Moi, c'était juste une meuf qui me tient la porte.
Ouais, alors que t'es
adorable,
juste pas à faire pipi, quoi.
Bah non, ouais. Je vais pisser, meuf.
Je sais pas, il y a pas de l'homéopathie, des trucs.
Fin... Bah, donnez-moi, en fait.
Ouais.
Vite.
Donc non, pas patiente. Pas patiente. Débrouillarde. Mais encore une fois, pas du tout. Enfin non, je suis pas... Attends, je cherche des situations où j'ai besoin de débrouillarder. Si, il y a des situations dans lesquelles... Enfin, je suis pas sûre que débrouillarde, ça veut dire se débrouiller tout seul. Je crois que c'est plutôt... Enfin, moi, je le perçois plutôt comme une capacité à... Quand on a un problème, trouver des solutions pour le résoudre, qu'elles soient communément admises ou pas, et qu'elles fassent intervenir des tiers ou pas. C'est terrible, mais je pense à une situation en particulier, mais en fait, on en revient au phénomène de la peur, et du coup, si je raconte mon anecdote, et bah bon, moi j'aime pas trop les insectes, il y a une petite bête en particulier, enfin vraiment, j'en sais pas possible, et en fait, j'ai un problème avec cette bestiole-là, c'est que je suis maudite. C'est-à-dire que cette bestiole, alors qu'il peut ne pas y en avoir dans un appartement, il y en aura forcément une dans ma chambre. Forcément. Emile, ça le rend fou. La semaine dernière, à 23h30, j'appelle Yannick et tout le monde a déboulé. Enfin, du coup, Emile et Yannick ont déboulé dans ma chambre pour écraser la bestiole en question. Ils m'ont dit, on n'en a jamais vu dans l'appartement. qu'est-ce qu'elle fout au plafond de ta chambre ?
Mais est-ce que tu fais bien ta poussière ? J'imagine que... Enfin, ça
non, mais Sandra, tu vois le repère d'Emile ?
Ouais. Oui, non, c'est vrai que enfin, statistiquement...
Je... si t'as une question de poussière, oui, on aurait vrai, déjà ouais. été avalé, quoi. Enfin,
ouais, c'est vrai.
Non, non, c'est pas une question de poussière. Mais cette petite bête en question...
T'ouvres ta fenêtre souvent, peut-être ? Je sais pas. Mais j'essaie non. de voir d'où ça vient.
Mais non, mais
Emile,
ça
m'arrive... Il ouvre pas beaucoup,
non,
je crois.
Non, mais ça m'arrive dans tous les endroits où je suis. C'est-à-dire qu'il y a des objets symboliques que je possède qui ont déjà été contaminés par ces bestioles-là. Ouais. C'est-à-dire que trois endroits sur mon doudou, un jour je rentre dans ma chambre, il y a une bestiole d'une taille...
Je l'aurais jetée à la poubelle. Même
ah
si
non,
c'est
mais je l'ai pas pu la... Enfin, je l'ai gardée, mais je la touche plus. Enfin, ouais. du coup, elle est... Voilà. Enfin, c'est pas possible. Enfin, je... Enfin... Dans une trousse de toilette fermée. Fermée. Fermée, oh, Sandra. La bestiole était énorme et elle était dedans. Et un autre jour, sur un de mes exemplaires d'Harry Potter, parce que ça, je ne l'ai pas dit, c'est peut-être ça que j'aurais dû dire en introduction, c'est que j'aime vraiment beaucoup Harry Potter. Plus je grandis, plus j'aime. Enfin, vraiment, ça s'arrête.
T'es vraiment la seule personne à aimer Harry Potter, je pense, dans le monde.
Non, mais. j'aime vraiment beaucoup ouais. Harry Potter. Je crois vraiment que.
De toute façon, j'ai l'impression que les gens qui apprécient Harry Potter, c'est soit des fans hardcore.
Ouais.
Soit ils ont pas vu ou pas ouais. lu. Donc
ouais. Ouais, c'est
pour
vrai.
Moi, enfin, j'ai vu, mais quand j'étais adulte, enfin, j'ai dû voir à la télé. Je l'ai pas lu, mais j'ai dû voir à la télé le premier quand j'étais petite et ça m'a pas touchée puisque on m'a forcé à regarder ça au BTS, donc ouais, c'est très récent. Enfin, forcé, voilà. Vivement conseillé le visionnage, mais du coup, j'ai pas été touchée par ça. Du coup, je ne suis pas fan.
Ouais.
Mais je peux comprendre. Enfin, je suis pas là pour juger le truc.
Non, non, je sais bien.
Plus je parle, plus j'ai l'impression que je dis des trucs horribles.
Non, non.
Mais
en fait, c'est ça.
Donc, oui, soit les gens sont hyper fans, ouais. soit ils s'en foutent.
Mais en fait, c'est mon rapport à Harry Potter qu'il faudrait que je te raconte parce que pour le coup, j'ai des milliers d'anecdotes. Bon.
J'ai pas les refs au truc. Mais
non, non, mais c'est plus. Enfin, genre, j'ai connu hyper tard. J'avais, je pense, vu certains films à la télé une fois. Tout le monde avait voulu me le faire lire. Genre, quand j'avais 9 ans, enfin, tu sais, à l'époque où ça sortait vraiment. Et j'avais toujours dit, ouais, non, c'est un truc de geek, c'est un truc de gamin, grave pas pour moi. Le temps passa. Un jour, on allait chez mes grands-parents, on était à 5 dans le Picasso. Enfin, je pense que je devais râler. Ma mère s'arrête sur une aire d'autoroute, elle me dit, écoute, je t'achète Harry Potter 7, t'as pas lu le 1, tu te débrouilles. Débrouillarde. J'ouvre Harry Potter 7, je pense que je me le farcis en 3 jours. Et du coup, je pense que j'étais genre en cinquième. Enfin, ça faisait longtemps déjà que les premiers étaient sortis. Enfin, si le 7 était sorti, par définition,
oui.
La saga avait déjà commencé à faire son petit bonhomme de chemin en France. Et je tombais amoureuse du truc et je me le suis enfilé. Et depuis que j'ai lu pour la première fois Harry Potter 7, il ne se passe pas un mois sans que je lise Harry Potter. Enfin, en fait, tous les jours que Dieu fait, je lis Harry Potter.
Tu les relis dans l'ordre
7.
De temps en temps
Souvent dans l'ordre. Et des fois, j'ai une petite envie, genre, tu sais, le 4, il me saoule un peu. Du coup, je passe souvent au 6 dans ces cas-là. Et j'ai même fait partie, ça c'est mon petit côté maxi nerd, d'un forum sur Harry Potter. Genre, c'était un site qui était super bien fait quand j'étais au collège. Ma meilleure amie Edina, elle y était aussi. Et on participait à des cours. Genre, il y avait des gens du site qui écrivaient, mais c'était des gens qui écrivaient hyper bien, qui mettaient en place. Donc, t'avais toutes les matières de Harry Potter. T'avais des cours de potions, des cours de métamorphose, avec des putains d'infos. Et après, tu devais remplir des devoirs. En ligne, il y a des mini-dissertations pour avoir une note
ouais.
et faire gagner des points à ta maison.
Ok. Mais toi, t'étais quoi ?
Moi, j'étais Poufsouffle.
Ok. Alors, je sais pas, je te dis, j'ai pas les
Poufsouffle, c'est un peu la maison.
On a joué à un jeu de quiz avec Lucas. Il y avait une question, c'était citer les maisons d'Harry Potter. J'ai mis Poudlard, d'accord ?
Ouais.
Donc voilà, pour te dire,
non,
vraiment.
C'est une grande maison, c'est une grande famille. Poufsouffle, c'est un peu. Enfin, maintenant, c'est devenu hyper. Hyper hype, mais à l'époque, c'était trop la honte d'être un Poufsouffle. Genre, c'était un peu les losers, un peu les outsiders. C'était ni les plus marrants, ni les plus intelligents, ni les plus roublards. Enfin, c'était un peu nul. Déjà, l'emblème de Poufsouffle, c'est un blaireau.
Okay.
Genre, sinon, t'as un aigle, t'as un lion et t'as un serpent. Et Poufsouffle, c'était les blaireaux. Enfin, du coup, genre, personne ne voulait être Poufsouffle. Avec Asino, on était tous les deux Poufsouffle. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'avait pas osé se le dire parce qu'on. On ne voulait pas s'avouer l'une à l'autre qu'on était parmi les loseuses, alors qu'on l'a toujours été. Genre, je ne sais pas pour qui on s'est prise. Enfin, évidemment qu'on est des loseuses. Et donc, ça nous prenait des heures quotidiennes. Et
Attends, mais le travail derrière ce forum-là, putain, c'est ouf.
Mais c'était payant. Et en fait, il y avait des administrateurs qui tenaient ça. Et un jour, le site a fermé. Et avec une copine que je m'étais faite sur ce site, qui s'appelle Romane, que je vois encore de temps en temps. Genre, j'ai une amie d'Internet. Ce qui est fou en soi. On a vu pour projet, elle avait appris le codage, on avait récupéré tous les
refaire le...
pour refaire le truc.
Putain.
On s'était super chauffés. Et en fait, juste c'est sur vrai, un site, ouais. Sur un WordPress gratuit, genre juste ça n'allait pas fonctionner.
Donc
on avait, on avait abandonné le projet. Mais c'est ce genre de fan qui pouvait travailler toute la nuit après le collège, juste sur des dissertations de potions, enfin qui n'existent pas. Le degré de folie. Mais c'était trop bien et j'y pense encore aujourd'hui. Avec, c'est pas un pincement au cœur, c'est une fracture du
comme l'emoji quoi. Il est vraiment cassé
vraiment
en deux.
Ouais. Irréparable. C'était super. C'était vraiment génial. Ce qui répond encore pas à la question. Est-ce que je suis derrière ?
Écoute Léna, vraiment, on est là pour digresser à fond.
Hein. Ah non, mais
c'est vraiment
je sais.
Une excuse pour trouver un
je
sujet.
Je sais. Attends, je suis partie de Harry Potter. Oui, de mon livre Harry Potter sur lequel il y avait une bestiole. Et donc bref. J'essaie de conclure rapidement là-dessus. Cette bestiole, Oni, H-O-N-I-E, j'ai plus le dispo depuis vraiment 2014, mais c'est celui qui correspond le mieux. Je suis épouvantée par ce truc. Et elle se retrouve toujours dans des affaires à moi. Et donc, plus d'une fois, je me suis retrouvée à 3h du matin à devoir descendre dans la rue, aller chercher des inconnus. Il est prié de monter chez moi.
C'est vrai ?
Ça m'est arrivé 3-4 fois, ouais.
Oh putain. T'as pas peur de... Bah non, remarque, t'as plus peur de la bestiole que
des
inconnus.
Contre un homme.
Ouais, bah,
même armée, je peux me défendre contre ça. En fait, je suis obligée de quitter mon lieu de vie. Enfin, je peux pas rester dans la même maison.
C'est une énorme phobie, quoi.
Donc, c'est pas possible. Donc, je préfère, je préfère dormir par terre. Enfin, dans la rue, il y a pas de galère. Donc, non, j'ai plusieurs fois... Enfin, c'est mon petit côté débrouillard. Faire appel à autrui en cas de danger imminent. Mais oui, en vrai, le move est un peu terrifiant. Genre, tu chopes des mannes. Mais souvent, les gens sont plus angoissés que moi. Enfin, je me rappelle d'un type. C'est le dernier en date que j'ai... Je lui ai sauté dessus à 3h du matin. Enfin, je pense qu'il a cru que j'allais l'arnaquer d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais. Ou appeler la police pour réseau criminel.
C'était à Saint-Ouen, du coup ?
Non, c'était encore dans le 18e, là où j'habitais avant.
Ce que j'allais dire, si c'est dans votre appart... Faut faire tout un passage, genre c'est hyper long pour enfin quand tu connais pas pour rentrer chez vous. Donc c'est plus t'avances, plus tu t'inquiètes quoi.
Ouais.
Quand tu connais pas.
Oui, de fou. Et en plus c'est long, plus la bestiole elle tend de bouger.
Ouais.
Et ça c'est épouvantable.
Ouais, le pire c'est quand tu la vois plus quoi.
Ça me terrorise rien d'y penser. Mais maintenant j'ai deux colocs forts et vaillants pour me soulager en cas de galère. Tiens, j'ai un chat qui pisse dans le panier à linge de Yannick, mais il a pas l'idée d'aller bouffer les bestioles.
Oui, c'est vrai.
J'en veux énormément.
Il bouffe les plantes, mais alors les insectes...
Ouais. Ouais. Il est nul. Finesse, on va te rendre à la SPA.
Oh non.
Il mériterait, franchement.
Non.
Je te jure qu'il mériterait.
Tu l'aimes trop.
Ah, mais je l'aime de tout mon cœur.
Bah voilà, garde-le.
J'ai rêvé qu'il se faisait poignarder.
Mais arrête, mais meuf, mais...
Ah ouais, je me suis réveillée en gémissant.
Oh non.
C'était horrible. Je suis remplie d'angoisse, en fait.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Tu dis que des trucs négatifs là.
Ouais. Je cherche une
Après, si t'es quelqu'un de négatif, c'est pas. Enfin,
mais
c'est ce qui
oui,
tu
mais
es. Tu
encore
vois,
une fois, je suis quelqu'un de négatif, mais parce que cette position en fait m'amuse. Parce que ça me fait pas rire d'être positif. En fait, y a pas de raison d'être positif. Enfin, j'admire les gens, mais moi, j'y arrive pas. Mais du coup, je suis négative autant par chose subie que par conviction. Tu vois. C'est mon personnage. Passion. Ah non, je voulais pas du tout tomber sur celle-là. Ouais, j'avoue.
Pardon,
en plus, j'ai
du
goût très rouge parce que j'ai bu un verre de vin et j'ai l'impression de me livrer comme devant Saint-Pierre au moment de passer à gauche ou à droite. Vu tout ce que j'ai dit, à mon avis, ça va pas filer du bon côté pour
non,
les bagages.
Non, franchement, ça va.
Enfin bref, je suis très rouge et j'ai les mains très moites. J'imagine que ça intéresse l'auditorat. Passion, mais je... Oh là là.
Bah, t'as dit que t'aimais bien l'écriture. Après, c'est vrai, effectivement, le mot passion est fort, mais...
Il veut dire trop de trucs.
Ouais.
Il veut dire trop de trucs.
Quelque chose, disons, qui t'anime ou que t'apprécies vraiment faire.
Franchement, Harry Potter, hein.
Oui,
mais c'est
vrai,
terrible parce que j'ai l'impression que quand on dit passion, forcément, soit t'as un truc qui te vient en tête, soit t'as rien qui te vient en tête.
Oui.
Enfin, si t'as rien qui te vient en tête, c'est peut-être que, genre, juste t'as pas de passion supérieure. Je me rends compte qu'en fait, ma définition de passion, encore une fois, mais parce que je suis tellement fermée d'esprit, c'est... Enfin, je tourne tellement rond dans la manière dont je pense... les choses, c'est que j'ai l'impression... En fait, je te dis Harry Potter parce que c'est le sujet sur lequel j'ai le plus de connaissances.
Oui, et
en fait,
si
c'est pas un sujet que je
tous les jours.
Mais oui, mais comme j'ai pas lu tous les livres du monde, ben je pense que inconsciemment, je me dis ça peut pas être ta passion parce que t'as pas assez de connaissances et que tu vas forcément rencontrer des gens qui te disent avoir la même passion que toi et qui, eux, sont incollables et s'y connaissent très bien. Et en fait, je mets tellement un
T'es pas obligée de tout connaître
mais
dans
non,
quelque
mais
chose.
Je sais, enfin, je suis entièrement d'accord avec toi sur la théorie, mais c'est vrai que dans la pratique, je pourrais dire que je suis passionnée de musique parce que je pense que c'est vrai que je suis passionnée de lecture, de poésie parce que c'est vrai aussi. Mais comme je suis pas la personne la plus compétente que je connaisse sur ce sujet-là, et bah du coup, ça m'empêche, je crois, de m'en emparer.
Tu pourras jamais être la personne
mais
la
je
plus.
Sais, mais bien sûr que non, et puis c'est complètement idiot de réfléchir comme ça. Mais. Putain, mais c'est.
Bah, c'est comme ça, c'est pas grave.
Non, mais ça craint, quoi.
Bah, on s'en fout.
Bah, non, on s'en fout pas parce que je vais finir malheureuse, quoi.
Mais non, mais non. À part Harry Potter, y a rien qui te. Enfin, c'est déjà bien, mais.
Ah, mais enfin, si, genre, je sais pas, l'amour, tu vois. L'amour, enfin, le fait que les gens soient en vie et soient heureux, ça me passionne, c'est magnifique. C'est vraiment super.
C'est adorable.
C'est cool, j'ai dit un truc gentil, positif. Je serais pas partie de là. Toute sèche, c'est cool. Je pense que je vais changer de cas. Je pense que passion, c'est pas.
Oui, vas-y, vas-y.
Je vois mal comment. Putain, j'ai l'impression d'avoir ouvert tout le jeu. Addict. Ah bah merde.
Est-ce que t'as des addictions?
Je pense que j'ai un terrain addictif qui est assez grand. Bah, je bois trop, je fume trop. J'ai arrêté le cannabis il y a quelques années maintenant, mais ça a été une addiction pendant une longue période de mon existence. Non, oui, je suis addict. Enfin, et c'est la raison aussi pour laquelle je m'empêche de consommer des drogues dures, enfin qui dépassent le fait de fumer, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai tellement peur de tomber dedans.
Ouais.
Je sais pas à quel point c'est génétique, à quel point c'est juste la psychologie, à quel point. Je sais pas, mais je suis vraiment pas bonne avec les substances. Ouais, je crois que je suis quelqu'un de très dépendant et en vrai, ça m'inquiète un peu.
Tant que t'en as conscience et que tu tentes pas un peu n'importe quoi,
ouais, mais
ça va.
L'alcool, tu vois, il est évident que j'en consomme beaucoup trop et que surtout, une fois que j'en consomme, si je bois un verre, je suis incapable de me limiter à un verre. Je peux ne pas boire,
oui,
mais je peux pas boire. Même, je peux pas boire deux verres.
Ouais.
Si je bois deux verres.
Ça en appelle un autre, etc.
Ah ouais.
etc.
Ouais, ouais. Ouais.
Non, mais j'ai le même problème. Comme c'est... toi, je peux ne pas boire
ouais.
de la soirée, il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, t'as l'euphorie d'être avec tes potes, etc. Mais c'est vrai que quand tu bois un verre et que tout le monde reprend une bière, bah je reprends une bière, puis j'en reprends une, puis j'en reprends une. En fait,
bah ouais.
tu sais pas quand t'arrêter parce que t'es bien.
Ouais. Non, mais moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a la peur que ça s'arrête, tu vois.
Ah ouais, au fond, j'ai pas ça, effectivement.
Enfin, de me dire, et là, tu bois plus, mais du coup, tu vas rentrer, et du coup, tu vas faire quoi, et tu vas penser à quoi, et tu vas.
Ok.
Enfin, j'ai une sorte d'anticipation de l'après.
Est-ce que c'est l'alcool ou c'est juste la fin d'un moment qui est cool?
Bah, j'ai envie de penser que c'est la fin d'un moment qui est cool, mais je suis pas, okay. Je peux pas être, enfin, nier totalement le fait que ce soit possible que ce soit autre chose.
Est-ce que tu bois trop? Déjà, est-ce que sur le moment tu te rends compte que tu bois trop, mais tu continues quand même?
Bah, je pense que je fais partie de ces gens qui ont une descente phénoménale et qui peuvent encaisser beaucoup d'alcool sans avoir l'air ivre.
Okay.
Et donc en fait, à partir de là, c'est un peu la porte ouverte, enfin, c'est un peu la pente glissante. C'est-à-dire que je peux vraiment tenir des discussions sensées avec 5 pintes de bière, ce qui n'est pas bon, quoi.
Mm.
Et en fait, comme ça ne se voit pas, bah, je me sens surpuissante et genre, j'ai l'impression d'être plus vive et d'être plus réactive. Et... En fait, ça me donne tellement de qualités sociales que je n'ai pas dans la vie de tous les jours que bah, je m'y accroche désespérément.
C'était ça ma question.
Ouais, ouais, non, mais c'est ouais. évident que c'est ça.
Ça fait longtemps que tu as ça?
Avec
ou
l'alcool,
en tout cas,
tu
t'en
veux dire?
Es rendu compte, ouais.
Mais en fait, avant, il y a 3-4 ans, j'avais pas du tout cette consommation-là. Enfin, je pense que j'ai bu assez tard. En fait, j'aimais pas l'alcool.
Bah, il y a peut-être aussi ce truc-là de, comme t'as commencé tard, tu découvres un petit peu, du coup, tu te permets un peu plus des choses et donc t'as une meilleure.
Ouais.
Tu tiens mieux l'alcool, quoi. Mais comment on dit une meilleure.
Tolérance.
Tolérance. Merci.
Enfin, j'ai pas commencé tard, mais j'ai comment. Enfin. En fait, avant, je voyais pas du tout l'intérêt. Enfin, je voulais pas perdre le contrôle. J'avais pas du tout l'intérêt. Alors que là, je recherche l'état d'ivresse, quoi.
Tu vois pas l'intérêt de boire si c'est pour pas être ivre? On dirait un quiz sur à
bah,
quel point tu
fait,
es toxique.
Ouais, c'est niveau 4, madame. C'est l'addictologie immédiate. Bah, en fait, de moins en moins. Enfin, si j'ai pas les effets de l'alcool. Je sais que je vais pas être satisfaite, tu vois. Mais parce que j'aurais l'impression que j'ai pas franchi le pas où je deviens l'Léna alcoolisée, qui est beaucoup plus guirette, peut-être. Mais en plus, c'est entièrement faux. T'es pas plus intelligent, t'es pas plus vif, t'es pas plus brillant. Alors que moi, j'ai vraiment l'impression d'être comme ça. Enfin, pas tout le temps, mais souvent quand je suis alcoolisée.
Quand t'es ivre, t'es le roi du monde dans ta tête.
Mais ouais, mais c'est... Je me laisse avoir par cette impression que je sais fausse. En fait, je mets les quatre pieds dedans. Et je comprends pas à quel point je peux être envahie de bêtises assez pour continuer à y croire sur le moment et à rechercher ça. Je suis pas finaude, quoi. Tu vois.
On disait que tous les deux, on savait pas quand était la limite du dernier verre. Est-ce que moi, j'ai ce truc-là de je sais pas quand je dois quitter la soirée.
C'est la question.
Ouais, en fait, non pas que j'attende que ce soit encore mieux après, parce que je sais très bien que non. Mais juste, par exemple, du coup, je vis avec Lucas, mon copain, et souvent, il va rentrer avant moi aux soirées. Parce que soit il travaille le lendemain, soit il est fatigué, etc. Et moi, je vais vouloir rester. Parce que j'ai envie de m'amuser. Mais en fait, il y a des fois où je le suis alors que j'ai pas envie. Mais je me dis, ça va me faire du bien. Effectivement, quand je suis dans le Uber au bord de vomir, je me dis, bon, j'ai bien fait. Mais maman, t'inquiète pas, je bois pas énormément tout le temps. C'est vraiment rare. Ma mère écoute le podcast.
Okay.
Mais ouais, en fait, moi, si quelqu'un me dit pas, allez, viens, on rentre, je rentre pas parce que je...
Ouais. Mais moi, parce que moi, je pense que j'ai peur de la solitude, de l'après.
Ok.
Tu vois, le trajet.
Oui.
Je suis toujours au bord, du gouffre, en fait, quand je me retrouve toute seule après avoir pris une grande dose d'énergie vitale, d'enthousiasme des gens, des corps. Et en fait, le sentiment de fracture entre le plein et le vide, il est tellement douloureux que des fois, j'ai l'impression de mettre plus en danger en me faisant vivre ça qu'en continuant la soirée, tu vois. C'est complètement idiot parce qu'il y a toujours un moment où tu rentres.
Bah ouais, non, c'est clair.
Il y a toujours un moment où tu rentres.
Ouais.
Impulsif. Mais en fait, j'ai l'impression que ma vie est une énorme dualité et que j'ai aucune notion d'équilibre et que tous les adjectifs que tu m'as montrés, à la fois c'est hyper oui, à la fois c'est hyper non. Mais enfin, tout le monde est comme ça. J'invente pas non plus. J'invente pas grand chose, mais. À la fois, je réfléchis énormément à tout ce que je dis, à tout ce que je fais. J'ai peur de tout, je conscientise énormément pour être sûre de ne pas regretter, pour être sûre de ne pas m'en vouloir, pour être sûre de tout. Et à la fois, des fois, je fais vraiment preuve de bêtises, peut-être pas relationnelles, mais...
Dis-moi si je me trompe, mais t'as pas du tout confiance en toi.
Mais alors ça, c'est une question qui est très compliquée, parce que je pense effectivement que je n'ai pas confiance en moi, mais je pense que c'est moins lié à une dévalorisation totale de qui je suis, qui a un problème d'orgueil, en fait. Et du coup, c'est super difficile de trouver ma légitimité à ne pas avoir confiance en moi, parce qu'effectivement, je ne peux pas dire de moi que je suis une personne qui a confiance en elle, mais je suis une personne qui a une extrêmement haute opinion d'elle-même. Et en fait, je ne sais pas, du coup, si je ne suis qu'une sorte de boule d'orgueil et une merde humaine, ou si je suis plus bactère en permanence et je me piétine avec mes gros souliers. Je n'en ai aucune idée. Et encore une fois, c'est les extrêmes. Encore une fois, c'est je sais pas où est le vrai. Enfin, j'ai pas...
Oui,
je pense
que il
y a longtemps dans ma vie, je me suis sentie comme une merde.
Ouais.
Et que du coup, ma réaction de combat, ça a été... T'es exceptionnelle, donc tu vas le prouver. Sauf qu'au final, je suis tout le temps malheureuse parce que je me dévalorise en permanence. Donc oui, je sais pas trop où je mets le curseur entre le manque de confiance, l'estime de soi, l'orgueil. C'est des choses qui sont pas encore dénouées.
Bah, si t'as répondu, on peut passer aux recommandations.
Oui,
ouais,
chouette. Les recommandations, il y a la nouvelle mini-série d'Arte à suivre sur Instagram. Je crois qu'il y a une deuxième partie qui va sortir exclusivement pour TikTok. Et je crois que toute la première saison est déjà disponible en intégralité sur YouTube, qui s'appelle Samuel. C'est une mini-série en vidéo dessin. Hyper poétique, hyper mignonne, qui raconte la vie scolaire de Samuel, un jeune élève. C'est vraiment adorable, ça attire les larmes, c'est trop mimi, en fait c'est juste trop mimi. Et toutes les séries de sur Arte à suivre, c'est vraiment super. Il y a une série qui s'appelle Esther, mot-clé cringe, vraiment, c'est vraiment chouette. Mais après, tous les contenus d'Arte, en fait, il y a La Chute de Lapinville, qui est vraiment trop
C'est le seul truc d'Arte que je suis un petit peu.
C'est brillant. C'est brillant.
Trop fort.
C'est vraiment trop
bien.
C'est
un podcast pour les auditeurs.
C'est une fiction audio. Écoutez-la.
Vraiment trop bien.
C'est fantastique.
Il y a un épisode tous les jours.
Ouais.
Donc ça peut paraître compliqué à se lancer maintenant, mais c'est, ça a commencé vraiment il y a un mois ou deux.
Ça se rattrape hyper facilement, ouais. Et c'est des épisodes de 4 à 5 minutes.
Ouais, même moins des fois.
Ouais. Donc c'est tout petit. Samuel, pareil, c'est quotidien, c'est tous les jours, enfin tous les jours de semaine à 18h. C'est vraiment très cool. Et autre recommandation, alors c'est un livre que j'ai envie de lire, mais que j'ai pas encore lu, que j'ai pas encore acheté. C'est un livre de Marie Charelle qui s'appelle La fille de Lake Placid. Et elle imagine la rencontre entre Joanne Baez, qui est une des voix de la folk américaine dans les années 60-70, entre elle et Lana Del Rey.
Okay.
Et c'est une sorte de fiction avec des éléments biographiques et tout un imaginaire. Qui a l'air vraiment super. Je vais aller l'acheter. Si ça vous intéresse, faites-le aussi.
Ok. Bah, merci d'être venu.
Bah, merci à toi de m'avoir reçu.
Et pour les auditeurs, n'hésitez pas à noter le podcast, s'il vous plaît, sur Spotify et Apple Podcast. Et on se retrouve dans 2 semaines. Salut !